Effectivement, un petit mot, il y a Jérôme et Thomas qui n'ont pas pu être là, donc ils s'en excusent. Hein. Et puis, effectivement, merci d'avoir choisi effectivement notre commune pour nous faire part, effectivement de votre pacte pastoral. À savoir également que nous, on a commencé effectivement à l'inscrire dans notre PLU, hein, où nous avons mis petit parcours. Hein. Voilà, donc je vais laisser maintenant la place, en tout d'ailleurs. Hein. Et puis, merci de participer effectivement à cette histoire écologique, hein, c'est tout à fait important. Et puis, je vais laisser la parole effectivement à Franck et à
Ami.
Ami. Voilà, alors bonne journée à tous.
Merci.
Oui, mesdames, messieurs, bonjour, monsieur Garajouin, merci de vos paroles de bienvenue. Mais en effet, je suis aussi Thomas Vidal qui est aujourd'hui à la Bernalès, qui est pas sur le territoire, mais qui sont en tout cas un mot, puisque depuis le début, il porte les pouces sur ce projet. Avec passion, avec détermination. Dans ce projet de pacte pastoral intercommunal, bon, je pense que c'est intéressant pour ce territoire, puisqu'il faut se poser la question, on voit que de plus en plus les milieux se ferment et qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai trouvé intéressant, c'est que ce ne sont pas des élus qui portent ce projet, mais bien les acteurs du territoire, à savoir les bergers. Et donc, ça me paraît important pour l'avenir, non seulement d'essayer d'installer des éleveurs, mais aussi de remplacer ceux qui vont partir à la retraite. C'est pas trop facile parce que suivant les situations familiales, on n'arrive pas toujours à acquérir les biens puisque ce n'est pas des arrangements à la famille. Et on peut comprendre aussi les bergers propriétaires, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont amenés des fois à faire exposer à propriété. Par contre, je pense que ce qui est important de voir aussi, c'est d'essayer de maîtriser tous ceux qui ont des réserves secondaires, parce que moi, sur les planchers, j'avais aussi des quelques-uns, où dans les différences complètes, on a du mal de faire un loyer des 52 mètres pour la maison. Mais ils se sont aperçus que s'ils faisaient venir le berger, bon, ça ne coûtait pas 500 ou 600 euros, voire 1000 euros par an, et que finalement c'était intéressant et de voir des brebis. Par exemple, l'autre jour, moi j'ai un monsieur qui est à la maison de retraite au banquier, et ses filles l'ont amené justement voir un troupeau qui pâturait autour de sa maison, donc ça m'a fait plaisir parce que toute la vie, de l'âge de 14 ans jusqu'à 75 ans, il y a eu des moutons. Donc il était tout heureux de voir que sa propriété qui était partagée par ses trois filles, il y avait une présence pastorale et des moutons qui pâturaient. Et moi, bon, en tant que vice-président du service incendie et secours, je prône haut et fort que maintenir des bergers, c'est maintenir un milieu ouvert, mais c'est aussi lutter contre la défense incendie. Parce que les budgets ne sont pas élastiques. Actuellement, au Conseil général, on a 800 000 euros de banque pour activer le budget du département défense incendie et de secours. Et on s'aperçoit que aussi, maintenant, c'est plus 70% d'actions sur le secours à personne et 30% sur l'incendie, donc c'est une preuve que la prévention de l'incendie et les gens qui sont sur le territoire, notamment les bergers, vont participer fortement à éviter qu'il y ait des incendies qui ravagent les forêts ou les biens. Sans compter les personnes, ça peut être quelquefois dangereux, on l'a vu notamment à Congigny à Pendant, où je ne sais plus combien de quarantaine de villas ont failli brûler parce que c'était mal entretenu. Donc je pense que tout ça d'actualité, on peut rebondir sur ces problèmes-là. Et mettre en évidence, et je crois que les partenaires financiers, comme le Conseil général, l'État et la région, sont prêts, même l'Europe, à nous aider à cette démarche. Alors, moi, je voudrais saluer le travail qu'a fait Olivier, puis M. Renard, M. Pesquet aussi, qui sont des acteurs du territoire, et puis ses collaborateurs, là, le jeune étudiant là, qui est en train de faire là, et puis aussi l'assistante de M. Olivier. Et ça nous permet, je crois, de vous imprégner un petit peu de ce que vous souhaitez, puis vous sensibiliser aussi, des fois par des copains ou des connaissances, on peut arriver à avoir des gens qui s'installent. Moi, j'ai vu qu'on a acheté une propriété au Pentier en tant que maire, j'ai acheté sa propriété, et on a acheté un éleveur, mais il se trouve qu'il a trouvé un copain qui va venir s'installer au Pentier. Donc, bon, une fois de bouche à oreille, ça peut être intéressant, et je pense que c'est important. Je ne vais pas plus m'allonger dans le discours, je vais passer la parole aux acteurs, parce que moi, je le répète, je veux que ce soit un projet qui vienne du territoire, déjà un territoire est élu, et pas des politiques. Nous, on est là pour vous accompagner, pour défendre, trouver les moyens financiers, pour arriver jusqu'au bout, mais pas pour prendre des décisions pour vous, c'est vous qui devez être maître de votre patrimoine et de ce beau pays des Cévennes. Merci de votre attention.
Bon, moi, je vais dire un mot pour vous dire pourquoi ces réunions aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche de divulgation du travail qui a été fait par les éleveurs au niveau du canton et de la communauté de communes, dans son ensemble, la communauté de communes Égoïs-Cévennes, Terre solidaire, pour essayer de maintenir et de promouvoir éventuellement l'élevage ovin, caprin et autres, si vous voulez, sur le territoire de la Comcône. Donc, pourquoi cette démarche? Pour un ensemble de choses, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup depuis toujours, depuis longtemps, un certain nombre d'éleveurs qui ne vont pas être remplacés parce que soit ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de successeurs qui veulent être éleveurs ou bergers, et même s'ils font notre production agricole parfois, et donc ce serait bien qu'il y ait une reprise de ces exploitations-là. Même si elles ne sont pas nombreuses, c'est toujours important de les maintenir parce qu'on est arrivé à un point un peu crucial. Ensuite, alors par ce biais-là, conforter peut-être certains éleveurs qui sont tout jeunes et qui ont besoin d'être confortés, ou éventuellement en installer des nouveaux, etc. Ça demande quand même un gros travail de réflexion. Et voilà pourquoi le travail a commencé il y a à peu près un an par des réunions sur Valrhogue. Avec les éleveurs, à peu près une quarantaine d'éleveurs ont participé à des thèmes de travail qu'on va pouvoir aborder pendant cette réunion. Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéoprojecteur. On s'est rendu compte que le vidéoprojecteur, ça ne favorisait pas la discussion. Et que c'était peut-être pas plus mal de faire des réunions pour bien échanger, savoir qui pouvait dire quoi, quel était le problème, ouvrir aussi aux propriétaires fonciers, même s'ils ne sont pas du tout dans l'élevage ou dans l'agriculture, savoir quels sont les échanges qu'on peut avoir avec les gens qui vivent du tourisme, qui font du tourisme, qui travaillent dans le bois, dans la forêt. Comment protéger le pâturage saisonnol pour éviter qu'il y ait une déprise totale et pour lui garder un peu de sécurité pour que ça reste un pâturage. Voilà. Après, il y a des données techniques qui ont été beaucoup travaillées avec certaines administrations, comme la SAFER, comme le Parc national des Cévennes, la Chambre d'agriculture, etc. Et ce que nous voudrions, c'est pouvoir mettre sur pied une espèce d'impact qui permette à chacun, avec la différence qui le caractérise, par sa situation familiale, financière, foncière, etc., et par son travail. Et donc, on ne va pas rentrer dans des cas particuliers, ce n'est pas du tout le but, mais on aimerait formaliser un pacte sur le territoire de la Comcône. Nous savons que par ailleurs, sur d'autres communautés communes, d'autres personnes, d'autres agriculteurs essaient de faire pareil, d'autres élus. Et je pense que à l'heure actuelle, avec le renouvellement des contrats PAC, avec l'entente de l'UNESCO qui s'est créée, avec le plan national, une nouvelle charte de nouvelles personnes, des nouveaux élus municipaux, pas toujours, mais parfois, c'est le moment de creuser la question et d'essayer, pour les années à venir, dans un an, deux ans, dix ans, peut-être plus, essayer de faire quelque chose de costaud et qui encourage à la reprise de l'élevage, au maintien de l'élevage, et puis par-delà, essayer de favoriser toute autre dynamique qui pourrait se manifester parallèlement à l'élevage. Voilà.
Pour compléter ce qu'a dit Franck, ce qu'on met en avant, c'est que le pastoralisme représente un intérêt général pour notre territoire. Ça, c'est vraiment le fondement. Alors, pour en arriver à ce texte que vous avez devant vous, c'était un texte qu'on a co-construit, c'est-à-dire il n'y a rien d'imposé. On est parti sur une réflexion, et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps depuis un peu plus d'un an, on y a rajouté des éléments, parce qu'à chaque fois, il y a des personnes ou des institutions qui nous ont dit « Ah, vous n'avez pas vu cet aspect, ce serait important de l'intégrer. » Alors, c'est tout l'intérêt de la discussion qu'il y aura après, c'est qu'on peut encore garder des éléments qui vont permettre de construire le projet de pacte. Ça, c'est absolument fondamental. Ce que je rejoins sur... aujourd'hui, on est en réunion publique, donc ça veut dire qu'on a ouvert à toutes les personnes qui sont intéressés par le sujet. Donc ça veut bien dire que le pastoralisme n'est pas l'exclusivité des éleveurs. C'est certes une pratique d'éleveur, mais les conséquences du pastoralisme dépassent largement le cadre de l'élevage. Donc là, on a repris des éléments sur les incendies, entre autres, et voilà, on rentrera dans le détail au fur et à mesure de la discussion. Ensuite, l'autre point important pour pouvoir mettre en action ce pacte pastoral, c'est qu'on s'appuie quand même sur de l'usage et sur des aspects juridiques. Et ces aspects juridiques, là, c'est Olivier qui nous a quand même aidé à mettre en forme, et on ne fait que reprendre ce qui existe, mais le mettre dans notre angle, complètement intégré dans notre façon de vivre, de travailler localement, pour dire, voilà, il faut qu'on s'appuie sur ces bases-là pour pouvoir maintenir le pastoralisme. Et par rapport à tout cela, on a donc Florian qui est passé chez pratiquement tous les éleveurs, et je pense tous ceux qui sont présents aujourd'hui sur la zone du territoire. Et Florian donc fait un travail de cartographie pour bien répertorier ce qui est utilisé par les éleveurs. Et en même temps, la circulation des troupeaux sur les pâturages, et aussi répertorier les zones où il y aurait possibilité de redéployer du pastoralisme, donc de l'élevage. Et c'est ça qui nous paraît quand même très important, c'est qu'il y a un énorme potentiel localement, et ça sera le fruit de son travail. Donc le travail de cartographie a été pris en charge par la communauté de communes. Donc c'est quand même important de le dire que côté élu, il y a une implication forte pour accompagner ce projet. Et de l'autre côté, les éleveurs, à travers des associations, ont pris en charge le financement du travail qui est réalisé par Cécile sur le recueil, ce qu'on appelle le recueil des usages pastoraux. C'est-à-dire que Cécile est allée enquêter des personnes qui ont connu une pratique il y a quelques années en arrière, mais aussi les pratiques actuelles, pour essayer de voir comment se pratiquait l'élevage dans la région, pour après pouvoir s'en servir, pour dire, bon voilà, on peut s'appuyer sur cette pratique-là pour développer le pastoralisme localement. Il y a une continuité, mais avec une modernité à travers le pacte. Et ça, c'est les éleveurs qui ont, par le biais d'associations, qui ont mis de l'argent sur la table. Voilà le cadre général. Après, soit on rentre un petit peu dans les détails, ou si
on va aborder peut-être quelques points. Juste. Voilà. Vous avez en fait plusieurs documents. Vous avez un document qui est ici distribué, c'est une version courte, c'est-à-dire une version la plus succincte possible, au sens où les argumentations après pour justifier les conseils se développer sont mis dans une version dite longue. Là, on décline les articles, etc., les codes, etc. On va vraiment en profondeur. Et puis, vous avez cette version qui est synthétique et qui est sur le poster ici, là, et qui, là, est véritablement une synthèse avec les éléments forts et les concepts, les points clés du pacte. Le pacte étant, finalement, part de l'idée que ce sont les acteurs qui font le territoire. Et les acteurs qui y vivent, qui y participent, qui y passent, qui y repassent, sont dans le territoire. Et c'est grâce à eux que le territoire se fait. Et donc la gestion, l'organisation et la protection, justement, et prise en considération, sont faites par ces acteurs-là. Et donc ne doivent pas être faites par des éléments extérieurs au nom d'éléments qui sont trop éloigné des réalités locales. Donc l'idée, c'est qu'on reste dans la réalité locale, les acteurs locaux participent et font leur territoire. Alors bien sûr, il y a le droit international, il y a l'université, etc., il y a le droit national, mais tout ça colle, tout ça s'intègre bien. Et comment appliquer même un droit qui vient de l'Europe si les acteurs locaux ne sont pas directement participants? Ça ne fonctionne pas. Alors de plus en plus, on se rend compte que le droit, s'il n'est pas mis à l'échelle locale, il n'est pas mal ou peu appliqué. Voilà. Donc là, il s'agit de construire finalement une identité territoriale autour, en partant du pastoralisme, pourquoi ? Parce que c'est les paysages et ce sont les racines de ce territoire sont dans le pastoralisme, mais ce n'est pas du tout exclusif, toutes les autres activités sont bien sûr prises en compte, et bien au contraire, puisque l'idée du pastoralisme, c'est d'ouvrir les espaces, et c'est d'être finalement un pont pour cette multifonctionnalité d'espace, finalement pour que l'espace soit à tout le monde. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de concepts qui sont là. Peut-être que Franck et Rémi, librement, vont choisir un ou deux. Là, on ne va pas aller dans trop de détails ici, sinon on en aurait pour 3 ou 4 heures. Mais bon, reste, vous avez ces documents-là. Vous avez des emails, on reste à votre disposition pour avoir les documents en PDF, etc. Et l'idée, c'est de travailler ce texte qui est déjà le fruit d'une co-construction. Ce n'est pas du tout un expert qui nous a dit ou moi qui a rédigé. Non, on a été vraiment en équipe avec les élus, avec les éleveurs pour voir les éléments clés et comment rédiger ça. L'idée, c'est que la co-construction, bien, il y a eu la semaine dernière des éléments qui sont intervenus, qui nous ont interpellés, qui vont permettre de modifier le texte. Donc voilà, il sera modifié, il est modifié progressivement.
Donc, c'est juste pour faire le lien. Nous avons, donc il y a eu des réunions publiques, et il y a déjà eu une première réunion publique la semaine dernière à la Mairie-Jolle, la petite aujourd'hui, et ce soir on fait la même présentation dans la Vallée d'Orme à son et après ça, on avait présenté le projet au conseil de communauté de Terre solidaire, et quand même ce qui a été intéressant, c'était les réactions de nos élus qui ont vraiment des sentiments, qui adhéraient à cette démarche, mais qui se posaient des questions et des interrogations auxquelles il va falloir répondre par la suite. Voilà. Alors, Franck, je pense que tu
veux envoyer sur... Oui,
moi, ce qui peut intéresser ça, c'est l'appellation patrimoine de tous que tu as évoqué, Olivier. Notre troupeau nous appartient, nous les bergers, nous sommes propriétaires de biens fonciers qui nous appartiennent, mais le pastoralisme, son fonctionnement, nous appartient pas forcément. Ça fait partie de l'histoire culturelle, sociale, qui a vécu longtemps, qui vit actuellement, et qui a besoin de pouvoir s'établir, se développer. En bonne entente avec l'ensemble de la société. Donc, quand on dit patrimoine de tous, c'est vrai que c'est l'histoire de tous. Quand les friches apparaissent tout, c'est l'histoire des propriétaires. Voilà, il faut faire la différence entre ceux qui ont un patrimoine commun, qu'il nous faut faire vivre, et ceux qui nous appartiennent en propre en tant que propriétaires de troupeaux, de biens fonciers, etc. Voilà, je pense que ça c'est une éclaircie. On peut revenir sur tous les thèmes après par les questions que vous allez poser. Ensuite, pourquoi ouvrir à tout le monde ? Bon, mais c'est évident parce que par exemple, il y a des tas de gens, de touristes, de randonneurs locaux ou voisins qui utilisent les chemins, les drails, etc. Et il y a un entretien, concrètement par exemple, il y a un entretien qui se discute qui doit faire l'entretien des drails, qui doit faire l'entretien des chemins. Il y a les chemins ruraux, les chemins communaux, les chemins des routes départementales, les drails qui n'ont pas un statut vraiment... on le cherche, quoi, le vrai statut des drails. Alors, ce que l'on sait, après avoir travaillé avec Olivier et tout ça, c'est que dans la mesure où elles sont utilisées depuis toujours, quand on utilise les drails, il y a un droit d'usage pour les personnes qui utilisent ces drails et les chemins. Donc, c'est pour ça qu'on a fait faire une enquête sur les usages pastoraux, parce que ça débouche sur d'autres usages, y compris pour le tourisme, etc. Dans la mesure où un sentier est nettoyé par des employés communaux, qu'il est nettoyé par des bergers qui utilisent ce chemin, c'est un usage qui crée... un droit qui ne peut pas se supprimer. Alors après, il est bien évident que quand on trouve un chemin barré par un propriétaire voisin, il faut essayer de discuter avec lui, dire pourquoi ce serait bien qu'il rouvre ce chemin, pourquoi il n'arrête pas en tout cas de la circulation. Voilà, ça c'est un problème ponctuel parmi tant d'autres qui concerne les vergers en premier lieu, parce que c'est vrai que les drails, a priori, c'est les vergers que ça concerne, mais ça peut être tout le monde en fait. Et là, il doit y avoir des réponses à amener. Et puis après, il y a l'histoire de, mettons, quelqu'un qui achète une propriété, quelqu'un qui vend sa propriété, un ancien berger, mettons, qui vend sa propriété, sa maison, il va vendre, donc, on ne sait pas, peut-être un voisin, peut-être un Hollandais, un Américain, on ne sait pas. Nous pensons qu'il est nécessaire que, quand quelqu'un achète une maison, il soit au courant de ce qui se passe sur un secteur. Et que si il y a un projet, un pacte pastoral, il achète avec ceux qui vont acheter, avec le territoire, avec ceux qui existent sur le territoire. Et il ne faut pas le tenir dans l'ignorance. Il ne faut pas le tenir dans l'ignorance de ses droits, de ses devoirs, et ensuite de ses intérêts.
De ses obligations.
Et de ses obligations. Voilà. Et du coup, de ses obligations. Voilà. Ça, c'est quelques exemples, par exemple, qui a pris, il y a plein d'autres exemples qui peuvent être repris, mais ce serait sans doute mieux que les questions viennent. De l'assistance.
Parce que derrière ces cas-là, et ces aspects un peu plus techniques, on voit finalement que l'enjeu, c'est bien de maintenir la mobilité des troupeaux dans l'espace. Maintenir cette multifonctionnalité, ouvrir des paysages d'ailleurs, au passage, qui font partie de ceci, ici, patrimoine mondial, puisque ça a été en 2011 inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce sont des paysages qui sont reconnus et dont, finalement, reconnus en tant que patrimoine, c'est important parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'éléments techniques, juridiques, par exemple, comme la servitude de pastorale, qui dit que le principe, c'est que les troupeaux, partout où il y a du pâturage, bien sûr, sans causer de préjudice, doivent circuler. Doit être à même de circuler. Ça ne veut pas dire qu'on va obliger, qu'il n'y a aucune contrainte, mais tout se fait par la négociation. L'idée, c'est que de permettre au maximum la circulation des troupeaux à travers le paysage, puisque c'est eux qui font le paysage aussi. Il y a l'adoption d'un zonage spécifiquement pastoral, AP ou NP, dans les plans locaux d'urbanisme, qui sont même les anciens, il y a toujours une phase de révision, les nouveaux qui vont venir, certaines communes qui n'ont qu'une carte communale, bien sûr, d'autres qui ont encore un ancien poste. Bref, l'idée, c'est que comme zonage, on intègre le zonage pastoral. Pastoral, ça peut être N, nature, naturel, pastoral, on rajoute un P, ou bien A, agricole, pastoral. Par ailleurs, d'autres exemples montrent que ceci est possible, notre droit le permet, permet ce genre d'innovation, parce que là, on adapte aux circonstances locales. Non loin dans le Larzac, par exemple, ils ont cette configuration-là de A agricole paysager. P comme paysager. Bon, voilà. P. Donc, ça prouve que, moi, j'ai travaillé aussi donc dans les Alpes de Haute-Provence, également, il y a une diversité de zonages en fonction des réalités, en partant bien sûr des zonages, les mots A comme agriculture, N comme naturel, U comme urbain, urbanisé, A urbanisé ou urbanisé déjà. L'idée de donner finalement une valeur, quelque part, c'est ce pacte, c'est de fonder une valeur d'intérêt général au maintien, à la transmission et au développement du pastoralisme. Donc ça, c'est conférer au territoire, qui est un patrimoine commun, effectivement, de tous, dans lequel il y a plein de propriétés, plein d'activités, d'acteurs divers, eh bien, de leur conférer une valeur qui est celle de donner de l'intérêt général au pastoralisme qui a construit et qui construit et continue à construire le territoire. Voilà. Juste un point que j'avais avant de passer la parole peut-être à Rémi, qui va continuer. En fait, nous avons travaillé depuis plus d'un an avec les élus, mais aussi avec des institutions comme le parc, comme les affaires, comme différentes institutions qui ont participé à des réunions, participé à des petits groupes de travail, on était une quinzaine, quoi, 10-15, et finalement souvent plus nombreux qu'on le pensait, et avec des élus, des éleveurs, donc différentes institutions, il y a des cartes de lien aussi, des associations qui ont participé pour co-construire voilà, ce document, ce parc. Donc c'est vraiment on en est au stade où c'est un processus qui a plus d'un an déjà, mais là maintenant on organise quelques petites réunions publiques pour informer justement au sein de la communauté de communes, donc dans différentes communes, eh bien, ce processus-là. Il va se poursuivre.
Voilà. Alors, moi, je voudrais aussi préciser, c'est que l'interprétation des élus, là, souvent quand il y a des propriétés qui se vendent ou des terrains, donc il y a demandé par un notaire des certificats d'urbanisme, soit opérationnels, soit d'information. Donc, ce qui est important de faire, moi je le fais sur ma commune, s'il y a des chemins ruraux qui existent, je le marque dessus et je demande au notaire qu'il le mette sur l'acte notarié. Parce qu'après les gens, ils l'achètent, moi j'ai eu des problèmes avec plusieurs, notamment dernièrement les Italiens. Ils ont commencé à mettre des chiens devant la porte, autour de l'été, ils ont fermé tout le chemin de roue. Donc j'aurais demandé d'enlever leur portail, ils n'ont pas voulu. Donc moi je suis allé, je l'ai enlevé personnellement, ils ont couvert. Et quoi, c'est municipal, on a pris le tournevis, ça a tourné vissé. Le lendemain, ils l'ont remis, ça leur a enlevé, mais là je vais balancer 15 mètres plus bas. Ils ont fait un gendarme, ils ont saisi un avocat, et l'avocat m'a dit écoutez, il faut avoir une négociation avec eux, etc. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils perdent le tribunal. J'ai écouté, lissez son titre de propriété, et vous verrez le résultat, le tribunal, je connais le résultat. Donc ils ont dû arrêter, ils ne mettent plus le portail, etc. Alors vous voyez, en plus un chien, vous y allez, ils sortent les dents comme ça. Non, mais je ne peux pas la passer. Après, ça s'approprie le territoire. Donc, notamment des propriétés, c'est des chemins ruraux, c'est dans les plus belles communes. Et moi, sur ma commune, j'avais 84 km. Donc souvent, c'est des chemins, en plus, qui, je suis limitrophe à Val Rogue et la Rouvière, qui communiquent aussi. Hein, donc c'est important. Quoi. Donc, vous faites attention à ça, moi j'ai fait attention des élus de bien le marquer, je le fais souvenir, ce terme me dit ouais, t'as mis deux couches, je dis oui, mais il faut bien que l'auteur le mette dessus, parce que là on est tranquille.
Cet exemple illustre bien le fait que le territoire n'est pas appropriable. Personne n'est propriétaire du territoire de la communauté de communes, Côte, Égouas, Cévennes, Terre solidaire. Mais c'est véritablement un patrimoine commun. Et donc, s'il faut qu'il y ait une circulation eh bien, au nom de cet intérêt général, eh bien, ben, les propriétaires privés eh bien, ont des obligations, ils ont des droits, mais des obligations aussi, parce qu'ils sont intégrés, ils font partie du territoire. Voilà. Rémi peut continuer.
Tout l'intérêt du parc, c'est justement en tant qu'éleveur, on est toujours à se demander, on est là dans notre petit coin de vallée, quel est finalement mon rôle là, quel est l'impact que j'ai. Et quand on prend une vision plus globale sur le territoire, on s'aperçoit que quand on prend tous les élevages, que finalement, on commence à constituer, on a vraiment un impact sur le milieu. Et quand on commence à réfléchir, ben, les conséquences que ça a, on l'a déjà dit, mais je le redis, sur la défense contre les incendies, sur le paysage, donc ça veut dire tout de suite le lien avec l'activité touristique, le déplacement sur les chemins, on l'a déjà évoqué. Donc on s'aperçoit finalement que chaque éleveur dans son coin, il a des conséquences qui vont au-delà de sa pratique d'éleveur, qui est de produire du lait ou de la viande ou de la laine ou de faire du fumier. Ça dépasse largement ce cadre-là. Et tout l'intérêt, c'est justement, ça a été de prendre d'approcher le problème sur sa globalité et d'aller encore plus loin en disant, voilà, on représente tel intérêt et, on représente un intérêt général. C'est la conséquence de notre pratique d'éleveur, mais on souhaite, là je repense ce qui a déjà été dit, on souhaite que ce soit pérennisé du fait qu'il y a quand même pas mal de collègues qui vont partir à la retraite dans les années qui vont venir, et qu'on réalise qu'il y a un potentiel énorme si on s'en donne les moyens. Il faut s'en donner les moyens déjà si on a une volonté politique locale à travers des élus qui affirment oui, c'est intéressant d'avoir de l'élevage pour toutes les invoqué, donc on se donne les moyens de réfléchir et d'avancer ensemble. Je pense que c'est...
Bon, ceci dit, une bonne information à la base, avec des recommandations qui vont avec, ça peut que favoriser le dialogue. Après, si des gens sont trop récalcitrants pour diverses raisons, on peut toujours les éviter, ils peuvent toujours rester à leur coin. Mais quand on pose une bonne information, souvent, on peut, je pense qu'on peut éviter bien des conflits, et puis même, on peut intégrer les gens qui ne voient pas forcément la possibilité d'installer quelqu'un, de faire vivre quelqu'un dans le pays, de favoriser le maintien des écoles, du bureau postal, etc. Rien n'est jamais perdu. La preuve, c'est qu'il y a quelques années, les écoles étaient au plus bas dans notre région. Actuellement, ça remonte pour différents facteurs. Il y a beaucoup plus d'enfants qu'il y a 30 ans en arrière, et que c'est une réalité et auquel il faut faire face. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont besoin de travailler ici ou ailleurs, mais chez nous, en tout cas, on voit bien qui c'est qui a besoin de travailler et où peut se trouver le travail. Alors, il faut bien quand même se poser la question aussi, les gens qui ne pouvaient pas travailler en ville, s'ils pouvaient trouver du travail ici, ce serait quand même pas mal. Voilà. Alors, la question reste posée. À travers un pacte pastoral, c'est une façon de discuter avec l'ensemble de la population et d'essayer de dynamiser le pays. Le pacte pastoral étant une façon, par un biais, par un travail ancestral, de relancer peut-être une dynamique avec d'autres dynamiques pour essayer de favoriser une situation unique. Voilà. Ce serait pas mal pour vous poser des questions, si vous avez des questions précises sur certains points.
Puis, l'important aussi, c'est au niveau touristique aussi, et en général de l'économie. On a été classé au patrimoine UNESCO, ça demandait plusieurs années, mais c'est sur pastoralisme. Si demain il y avait plus au moins d'élevage, il pourrait nous déclasser, mais ce n'est pas des années pour nous déclasser. Autant c'est un militaire pour nous déclasser, autant c'est un métropolitain pour nous déclasser. Je pense que c'est un atout d'intérêt économique et touristique qu'il y a.